Mais aujourd'hui, je voudrais rester sur cette signification principale de ce mot, qui dans ce sens-là, qui apparaît le plus souvent, que nous appelons le péché, qui est donc l'action de manquer le but. Pour moi, ça a un sens très précis. Pour ceux qui ont entendu mon témoignage, j'ai pu exprimer que j'avais 19 ans et c'était peu de temps après la conquête spatiale par la NASA aux États-Unis, et c'était quelque chose qui m'avait pris les tripes pendant toute mon enfance. J'avais suivi ça de très près. Et il y a un élément très important dans toute cette aventure de la conquête de la Lune. Il faut absolument maîtriser ce qu'on appelle le rendez-vous spatial. Lorsque, après le, et particulièrement un moment très 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 précis, hein, si vous voulez revenir vivant sur Terre, lorsque ce qu'on appelle le module lunaire remonte vers le vaisseau mère, là, faut pas se rater. Si les deux vaisseaux ne se rencontrent pas, ne se retrouvent pas sur la même orbite, il n'y a pas une deuxième chance. Et donc, pour moi, ça fait référence à quelque chose de très précis, parce que lorsque j'ai entendu pour la première fois à 18-19 ans, lorsque j'ai été confronté à la voix de Dieu, peut-être, comme disait Sandra tout à l'heure, c'est cette image qui est revenue dans la nuit qui a suivi cette première rencontre, où je me voyais seul dans l'univers, dans l'espace, une lumière venait vers moi, mais je passais à côté. Et donc cette notion de rater le rendez-vous spatial, ça me parlait beaucoup, parce que je savais la portée que ça avait dans ce qui m'avait passionné. Et donc cette idée de Dieu était en train de me dire, là, dans la vie que tu mènes, tu passes à côté. Et en dehors des environnements religieux, le mot péché, il faut reconnaître, est peu employé dans la vie courante. On parle, par exemple, de péché par excès de zèle, par excès de confiance, mais finalement, ce sont là que des expressions toutes faites, qu'on emploie un petit peu facilement, mais qui ne nous mettent pas face à une véritable culpabilité. Ce mot de péché, ça a quand même quelque chose de rébarbatif, et ce n'est pas volontiers que nous l'utilisons. Même un croyant aura du mal à dire « j'ai péché », même entre croyants. Vous vous rappelez sans doute l'histoire du fils prodigue, comment il se résout à retourner vers son père en préparant ce qu'il va dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Ça remonte à quand, Claudine, la dernière fois que quelqu'un qui t'avait offensé est venu en te disant « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Ça remonte à quoi, Jessie, que quelqu'un est venu vers toi en disant « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Nous sommes beaucoup plus réservés que ça dans l'expression de notre repentir, et nous préférons utiliser des termes comme « excuse », « regret ». Quand nous ne minimisons pas nos actes et nos paroles par des phrases « je ne pensais pas ce que j'ai dit »,« les mots ont dépassé ma pensée », etc., etc. Donc ce mot « péché » a une connotation religieuse bien trop marquée, et plus encore dans un état laïque qui renvoie les questions religieuses dans la sphère privée. Le mot « péché » sert aussi également de prétexte à tout un tas de manipulateurs de tout poil qui se servent de péchés réels ou supposés de ceux qui les consultent pour les engager dans une voie qui, loin de les délivrer, au contraire, les asservit. Le mot péché a aussi été le prétexte à de nombreux et criminels abus dans l'histoire de l'Église. Et il n'y a pas si longtemps encore, en Afghanistan, alors que sévissait le régime des talibans, il existait une compagnie d'hommes dite de promotion de la vertu et de répression du vice qui, à l'aide de fouets, dans la rue, sanctionnait toute tenue ou toute attitude jugée pécheresse. Donc, le péché, ce n'est pas quelque chose de bien en soi, nous en sommes conscients, mais pire encore, ce n'est pas quelque chose de bien à évoquer. Ce n'est pas quelque chose de bien à rappeler à nos esprits. Et c'est donc pourquoi je vous propose d'en parler ce matin. Nous avons dit que le mot péché est bien souvent traduit de l'hébreu chata, qui signifie rater la cible. Et il faut bien reconnaître que le péché, c'est ça, quoi, c'est raté. C'est raté. C'est l'humanité a raté son rendez-vous de foi et d'obéissance avec son Créateur. L'humanité a choisi de détourner son regard de cette cible pour viser d'autres objectifs qui lui ont paru meilleurs. Bon à manger, lisons-nous dans la Genèse, qui lui ont paru plus beau, agréable à regarder, et plus élevé, précieux pour ouvrir l'intelligence, lisons-nous. En tout cas, plus excitant quand même que cette banale cible. Ça, c'est le révélateur. Cette cible d'une banalité vraiment affligeante. Et peut-être que d'autres choses peuvent être très intéressantes, très excitantes. Que ça. Comment retrouver notre cible au milieu de cette débauche d'objectifs tous plus alléchants les uns que les autres? Et d'ailleurs, ces autres objectifs, vous en avez vu quelques-uns, sont-ils tous mauvais? Est-il mauvais d'aspirer à un travail intéressant et correctement rémunéré? Est-il mauvais de désirer fonder un foyer harmonieux, une famille unie? Est-il mauvais de chercher à acquérir des biens, une voiture, une maison? Ces objectifs-là constituent-ils d'autres cibles qui nous détournent de la cible essentielle ou au contraire trouvent-ils leur place au sein même de ces cercles? Mais tout d'abord, qu'avons-nous perdu en regardant ailleurs, en considérant d'autres cibles, d'autres objectifs? Le désarroi d'Adam nous en dit long. Il est paumé. Quand on regarde Adam après l'instant où il a péché, il est littéralement paumé. Il ne reconnaît plus rien. Ce qui était clair et limpide dans son esprit, ce discernement des choses, tout cela a disparu. Il se sent nu, seul. Il a peur, et même peur de Dieu. Ça vous parle, ça? Ça vous parle, cette idée d'un monde hostile où toute trace de Dieu semble avoir disparu? Ça vous parle, cette appréhension à faire face à la sainteté de Dieu? Quant à la cible, oh, pas de problème, on la voit toujours. Seulement maintenant, elle est hors de portée. Elle n'est pas plus petite, comme l'image pourrait nous le laisser penser. Elle est loin. Plus petite, elle serait encore atteignable. Elle est loin, elle est même trop loin. Elle est hors de portée. Elle est carrément trop loin pour lui, trop loin pour son arc, hors de portée de ses flèches. Vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez, des heures et des jours d'entraînement, si votre arc ne porte pas jusqu'à cette cible, c'est râpé d'avance. En fait, ce n'est pas la cible qui s'est éloignée, c'est lui, c'est Adam. Ce sont nous, les hommes, qui nous sommes éloignés de Dieu et l'avons rendu inaccessible. Inaccessible à notre compréhension de sa pensée. Inaccessible au discernement de sa volonté à notre égard. Inaccessible à sonder le mal et le bien, parce que c'est là un effet pervers totalement inattendu. Cet accès à la connaissance du bien et du mal, par l'expérience, hein, il a voulu accéder à la connaissance du bien et du mal par l'expérience, ça a provoqué le contraire de ce que la convoitise avait fait miroiter. Ça a provoqué une satisfaction passagère, excitante, suivie d'un profond dégoût. Une confusion dans la notion du bien et du mal. Un déchirement de l'âme entre attirance et répulsion. Une compromission qui ôte toute liberté de s'en tenir éloigné. En tant qu'être humain, nous avons mis la cible hors de portée. Nous avons mis la cible hors de notre portée. Et voici comment Paul en parle aux Éphésiens, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. À partir du verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Mais maintenant, vous autrefois qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Peut-être que parmi nous ce matin, quelqu'un se sent loin. Loin de ce qui est dit dans ce culte, loin de ce qui est lu dans cette Bible, loin de ce que nous chantons, de ce que nous exprimons dans nos prières, loin des témoignages qui ont été donnés ce matin, loin de Dieu, loin de la cible à laquelle il aspirait pour sa vie. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir visé la bonne cible. Alors, vous êtes concerné par ce que dit Paul aux Éphésiens. À ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du peuple de Dieu, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, eh bien oui, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous tous qui étiez loin, qui vous étiez éloignés de Dieu, Jésus-Christ vous a rapprochés par son sang. Pourquoi par son sang ? Parce que Jésus a donné sa vie pour acheter la nôtre. parce que la cible était hors de portée de nos flèches, parce que sans même parler d'atteindre ou de viser la cible, de chercher à l'atteindre, nous ne la visions pas, ou nous visions d'autres cibles. Et Paul ne s'exclut pas de ce constat. Loin de là, nous étions aussi de leur nombre, dit-il. Nous tous ici présents, et même ceux que vous avez, dont vous avez entendu ce matin les plus belles voix, ceux qui ont exprimé les plus belles prières, ceux qui ont donné les témoignages les plus convaincus, les plus forts, nous étions tous éloignés, avant de rencontrer Dieu, éloignés de Dieu, par notre condition même, comme l'apôtre Paul le dit, destinés à la colère. Destinés à la colère de Dieu comme tout autre homme. Nous disions que le mot péché a quelque chose de qui fait peur, d'effrayant, mais l'expression colère de Dieu, sauf à ceux qu'elle fait sourire, n'est-elle pas encore plus effrayante? Mais la colère de Dieu n'est que l'expression légitime des dispositions du Créateur qui voit sa créature prendre un chemin d'éloignement et de mépris et, disons-le, d'aveuglement. À l'image du fils prodigue qui va se mettre dans une situation pas possible et seulement alors réaliser à quel point il s'est fourvoyé. Mais la colère de Dieu n'exclut pas la compassion, et c'est tout de suite ce que Paul dit juste après. Dieu a eu pitié de nous. Dieu, lui, mieux que quiconque, sait que nous nous sommes mis hors de portée de la cible, hors de portée de quoi que ce soit qui lui plaise, hors de portée de la vie éternelle. Et Paul dit, oui, Dieu est riche en compassion. Oui, il nous a rendu la vie avec le Christ, à tel point qu'il parle dans ce passage de résurrection. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Une place assise, nous occupons une place assise aux côtés du Christ et en tout cas nous en goûtons déjà les prémices. Il a fait cela, verset 7, afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Que personne ne puisse se vanter. Ivan l'a évoqué ce matin. Il en a parlé. Que personne ne dise, j'ai visé plus juste, j'ai tiré plus fort, j'ai tiré plus loin. La grâce de Dieu, c'est un don. Le salut de Dieu, c'est un don, une grâce accordée à une personne condamnée. Et dès lors, celui qui s'approprie cette grâce par la foi entre dans la présence de Dieu, quel que pût être son éloignement précédent, et hérite dans l'instant de la vie éternelle, dans l'instant. Qu'en est-il désormais pour lui de la cible? Et au fait, nous visons quoi au juste en tant que croyants, en tant que croyants rachetés? Nous reste-t-il seulement encore un objectif à atteindre? Et Paul lève un peu le voile sur ce point dans ce passage. Au verset 10, en réalité, c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui nous a fait, nous dit-il, créés en tant que collectivité humaine, bien entendu, mais aussi en tant qu'individu. Dieu voulait un peuple qui le suivent et marchent dans ses pas, collectivement. Mais il voulait aussi des individus, comme Adam et Ève, qui se tiennent près de lui, le suivent librement et trouvent leur joie à accomplir les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour eux. qu'il garde la cible dans le viseur. Les cercles de toutes ces bonnes choses qui feront la joie de leur créateur tout autant que la leur. Dans ces cercles, ils pourront s'accomplir professionnellement, fonder une famille. Dans ces cercles, ils feront des projets pour eux-mêmes. Dans ces cercles, ils enseigneront leurs enfants et enseigneront les enfants de leurs enfants sur la vie et les choses de Dieu. Dans ces cercles, ils feront connaître aux hommes éloignés de Dieu, le bonheur qu'ils trouveront à s'en rapprocher. L'Église est le peuple de Dieu sur la terre. L'Église est la collectivité qui est en charge de garder la cible en ligne de mire. Toutes ces bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour elle à accomplir. Mais le croyant non plus, à titre individuel, ne perd pas de vue la cible et garde en tête l'objectif. Nous tenir près de Dieu, dans sa présence, marcher dans les pas du Christ, selon le modèle qu'il nous a donné, dans l'accomplissement de toutes ces bonnes choses, qui Paul appelle les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, individuellement, pour chacun d'entre nous. Notre condition humaine fait qu'il pourra nous arriver de rater la cible. Il faut le savoir. Un jour, un vent contraire viendra mettre votre flèche par terre bien avant d'avoir atteint sa cible, ou un vent latéral la dévira. Un jour, vous manquerez de courage et d'énergie pour donner autant que d'habitude. Vous pourrez être préoccupé ou passer par des moments au cours desquels la cible vous semblera moins nette, plus loin, plus floue. Parfois, vous penserez avoir visé juste et au final, vous vous apercevrez que non. Et Paul en parle aux Romains et cite vraiment son expérience personnelle. Mais je vous invite à tourner vos Bibles dans l'Épître aux Romains au chapitre 7 à partir du verset 21. Voilà donc l'expérience personnelle que Paul partage aux Romains. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Je ne trouve pas dans toute la Bible de texte plus lucide sur la condition humaine. On y perçoit toute la lutte intérieure d'un esprit bien disposé face à une nature charnelle tentant de prendre le dessus. Et si nous en restions là, nous ne serions pas loin de baisser les bras. Mais Paul continue au chapitre 8, et il dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je pense que si on s'en tient à l'aspect juridique, c'est assez facile à comprendre. Jésus-Christ a pris sur lui notre condamnation en endossant nos péchés sur la croix. Nous ne pouvons plus être condamnés parce que lui l'a été à notre place. Le deuxième aspect qui traite de notre liberté à l'égard du péché est un peu moins clair, et notamment cette allusion à la nature humaine de Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ, fils de Dieu, apparu comme un simple homme, Et il a connu les mêmes tentations que nous. Mais n'ayant cédé à aucune de ces tentations et n'ayant pas livré son corps au péché, il a vécu en tant qu'homme. C'est ça qui est important. Jésus a vaincu en tant qu'homme toute forme de péché, comme homme, comme nous. Il a ainsi, en agissant ainsi, comme le dit Paul, condamné le péché dans la nature humaine. Et donc, lorsque Paul déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement sur le plan juridique, c'est aussi que nous ne sommes plus condamnés à céder au péché. Si du moins, nous suivons l'exemple de Jésus. Et je pense qu'il y a là un aspect très important à considérer dans notre marche avec le Seigneur, dans nos combats contre le péché, afin que nous ne baissions pas les bras. Oui, j'ai cédé à cette tentation 100 fois. Et là encore, je viens de céder pour la 101e fois. Mais non seulement Dieu ne me condamne pas, ou plutôt Jésus a porté ma condamnation, mais je ne suis pas condamné à y céder une 102e fois. Je ne suis pas condamné à perdre ce combat encore et encore jusqu'à la fin de mes jours. Au contraire, je suis appelé à remporter des victoires sur le péché. Je lis dans ce passage, « La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché. » Je suis bien conscient que ce n'est pas dans cette vie que j'atteindrai la perfection, mais le combat contre le péché dans ma vie commence maintenant. Et toujours dans cette considération, j'aime beaucoup un texte que nous trouvons dans Michée, qui m'a souvent servi d'appui dans mes luttes personnelles. Michée au chapitre 7, versets 7 à 9. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira dans la lumière et je contemplerai sa justice. Une chose est de manquer la cible après l'avoir visée, autre chose et de l'ignorer ou de viser ailleurs. Je pense que Jésus a été pour nous également un modèle dans son attachement à demeurer dans la volonté de son Père, volonté qu'il évoque à de très nombreuses reprises. Et je voudrais vous laisser sur cette idée que nous restions très concentrés à considérer, à regarder, à porter notre attention sur l'exemple de Jésus, qui soit pour nous une illustration de la cible que nous sommes appelés à viser et à garder en ligne de mire. J'avais prévu de chanter un des chants ce matin, j'étais frappé ce matin en entendant tous les chants que nous avons chantés, à quel point ils s'harmonisaient bien avec tout ce que nous disons. Et j'avais prévu que nous chantions tel que je suis, mais je préfère qu'on reste sur jour de joie, jour de victoire. Voilà, si les musiciens veulent revenir, nous allons reprendre ce chant. Jour de joie, jour de victoire.